Alors bonjour à chacun, chacune. On est heureux de se retrouver là ce matin. Et là, je pensais quel privilège on a de pouvoir se retrouver et d'avoir une salle. J'étais donc dans le sud de la France là cette semaine et j'ai ma fille et mon gendre doivent faire presque une heure de route pour aller dans une église. Et donc ils ont une petite église de maison pas très loin de chez eux, mais ils se retrouvent qu'une fois par mois. Parce qu'ils ne peuvent pas se retrouver plus, parce qu'il n'y a personne pour pouvoir vraiment prendre les choses en main. Ils aimeraient bien, hein, ils sont 3-4 couples, et ils ont presque 9 enfants entre eux. Donc ça pourrait être une petite communauté, mais personne pour gérer ça. Et nous, on a des anciens, on a un conseil, on a des locaux, on a un groupe de louanges, on a plusieurs gens qui font de la louange. Quel privilège qu'on a. Quelque chose qui m'a traversé l'esprit, même si on n'est pas très très nombreux, qu'on aimerait être plus, quel privilège qu'on a de pouvoir se retrouver. Merci Seigneur de cela. Et donc on va continuer donc nos prédications sur les histoires de l'école du dimanche, pour ceux qui ont eu l'occasion de l'école du dimanche. Alors c'est vrai, j'étais dans le sud. Et c'est vrai qu'à un moment donné, les jeunes jouaient sur un terrain, ils étaient torse nu, il faisait beau, tout ça. Mais bon, en fait, non, on ne va pas trop parler de l'été, de la plage. Et on ne va pas non plus chercher Charlie, mais on va chercher un autre personnage. Mais où est passé Jonas ? Mais où est passé Jonas ? Donc ce matin, nous allons parler sur Jonas, ce prophète. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'entendre parler de l'histoire de Jonas, si vous avez eu l'occasion d'entendre les histoires de ce qu'on dit de l'école du dimanche pour les enfants. Jonas était un prophète qui vivait dans le royaume du Nord. Alors Israël était divisé en deux. Il y avait le royaume de Juda et le royaume du Nord avec comme capitale Samarie. Et Jonas vivait à l'époque de Jéroboam II. Donc, pour ceux qui aiment un peu l'histoire, il y avait Jéroboam I, c'est celui qui avait pris le royaume du Nord en main, quand il y a eu le schisme sous le fils de Salomon. Et puis, plus tard, il y a eu un autre Jéroboam, c'est pour ça qu'on dit Jéroboam II. Et voilà que, sous l'époque de Jéroboam II, il ne vivait pas selon ce que l'Éternel voulait. Pour autant, Jonas a eu une parole pour Jéroboam II, une parole de délivrance, que l'Éternel allait délivrer le royaume du Nord, et c'est ce qui s'est passé. Certainement, ils étaient oppressés par les Édomites, les cousins éloignés d'Israël. Et l'Éternel, nous dit le texte, dans 2 Rois 14, a eu pitié d'Israël et l'a délivré. Mais Jonas ne se passe pas dans le royaume du Nord. Il se passe plutôt en Assyrie. Donc la Syrie à cette époque-là n'était pas encore le grand empire qui régnera sous Tiglath-Pileser III, qui va conquérir tout l'espace, tout le croissant jusqu'à l'Égypte. Pour l'instant, c'était un tout petit empire, une petite nation qui vivait pas mal de difficultés, de troubles internes, de guerres civiles, et c'était des gens qui avaient une vie vraiment très très dissolue. À tel point que bizarrement, l'Éternel avait décidé de condamner cette nation. Donc il faut s'imaginer peut-être que leur vie était vraiment tellement mauvaise que Dieu décide d'intervenir tout spécialement contre cette nation. Et pour cela, il envoie son prophète Jonas d'aller à Ninive, la capitale assyrienne, pour annoncer sa condamnation. Et alors, si vous connaissez l'histoire, l'Éternel, chapitre 1, verset 2, dit à Jonas, « Jonas, lève-toi, va à Ninive, la grande, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se lève, il prépare ses affaires, et il part à l'opposé de Ninive. Il prend le bateau pour aller à Tarsis. Alors Tarsis, ce n'est pas Tars, hein, comme vous voyez là-haut, ce n'est pas la ville de Paul. Non, Tarsis, c'était une région, une ville, un pays très très loin d'Israël. Et il semblerait que c'est de là que venaient toutes les richesses du roi Salomon. Il y a même des films qui se sont faits après coup, hein, les richesses du roi Salomon. Et il semblerait que ça soit en Afrique. Et il y en a qui essayent de retrouver les mines du roi Salomon. Bref. Donc Jonas part à l'opposé pour Tarsis. Quelque chose qui est surprenant dans ce texte, qu'on n'y pense pas quand on est enfant, c'est que pourquoi Jonas s'enfuit ? Parce que ces gens, c'était des gens mauvais. Et donc, Jonas avait tout intérêt à aller condamner ces gens, parce que c'était des païens, des gens qui faisaient le mal. Donc il aurait dû être tout heureux d'aller à Ninive et de dire « Haha, vous allez être détruits par l'Éternel !» Et il s'enfuit. Alors on le sait dans l'histoire, hein, il s'enfuit parce qu'il sait que Dieu est bon et qu'il pourrait leur pardonner. Mais les Ninives ne représentaient pas une menace pour Israël. En tout cas, pas encore. Parce que en même temps que Jonas, vivait un autre prophète, Joël. Et Joël avait annoncé la destruction de Samarie par qui ? Par un peuple qui viendrait du nord, par les Assyriens. Et certains voient Jonas comme un héros sacrificiel. Vous allez me dire, oh, c'est un peu biscornu ça. Imaginez la tête du prophète, lui qui veut tout donner pour son pays, son peuple, pour Israël. Et il se dit, mais si je vais à Ninive, que je leur annonce la condamnation, et que Dieu, il est tellement bon qu'il va leur pardonner, il ne va pas les détruire. Mais si je m'enfuis, que je n'annonce pas la condamnation, ils ne vont pas pouvoir se repentir. Et Dieu va les détruire. Et ils ne viendront pas nous attaquer. Jonas est prêt à se sacrifier, à abandonner sa patrie, le lieu où il vit, son royaume, même son Dieu. Il est prêt à tout abandonner pour pas que les Ninivites se repentent et viennent détruire Israël. Alors vous connaissez l'histoire. Jonas se lève, s'enfuit, mais Dieu ne laisse pas faire. Il envoie une tempête. Et le bateau tangue. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait du bateau. Étant à Marseille, j'ai eu l'occasion de faire du bateau. Je n'ai pas connu de grosses tempêtes, de gros grains. Mais déjà, un bon vent qui souffle bien, ça tangue. Ça tangue, ça tangue. Et ça monte, ça descend. Voilà. Et Jonas, lui, il dort au fond de cale. Il dort à fond de cale. Il n'est pas du tout gêné, ça. Et du coup, c'est les marins qui doivent venir le réveiller en disant mais on va mourir, qu'est-ce que tu fais à dormir ? Et là, il se trouve qu'il découvre que c'est à cause de Jonas qu'est cette tempête. Et à nouveau, Jonas, héros sacrificiel, qu'est-ce qu'il dit ? Allez, j'instaure le premier suicide assisté de l'histoire. Jetez-moi par-dessus bord. Et tout va devenir rentrer dans l'ordre. Et les marins, d'abord, ils n'acceptent pas. Hein. C'est comme ici, en France, on discute sur la loi du suicide assisté. On doit aller en Suisse. Ils disent, va voir en Suisse si tu y es. Non, au bout d'un moment, ils disent, OK, on ne peut pas. On peut pas. Ils prennent, ils jettent. Et là, effectivement, le calme arrive et un gros poisson arrive et plouc, attrape Jonas. Vous connaissez l'histoire. Et du coup, on se dit, mais c'est n'importe quoi. On connaît l'histoire de Pinocchio, Jonas dans le ventre du poisson, mais ce n'est pas possible. Et beaucoup pensent que cette histoire est une allégorie de Jonas. Pourtant, Christ, quand on lui demande « Montre-nous un signe, un miracle de qui tu es vraiment », il dit « Il n'y aura aucun autre miracle que celui de Jonas ». Et Jésus cite Jonas comme un vrai signe miraculeux. Oui, Jonas a bien existé. J'ai eu l'occasion, dans le passé, il y a très très longtemps, de prêcher sur Jonas. Et donc, je prenais cette illustration de Jonas, enfin, je prenais pour illustrer l'histoire de Jonas, quelque chose qui s'était passé en 1883 à peu près. Un gars qui était tombé à l'eau, qui était avalé par un poisson, puis ils ont tiré un coup de canon sur le poisson, il a recraché le gars, et puis voilà. Et en préparant ce message, eh bien, il s'avère que, et je donne les sources, comme ça vous pouvez vérifier, hein, donc un article du 14 juin 2021 sur francebleu.fr, qu'un gars, Michael Packard, pêcheur de homard du Massachusetts, a été avalé par une baleine à bosse le vendredi 11 juin au large de Boston. Puis, il a été recraché quelques instants plus tard, vivant, capable de raconter son histoire. Ben oui, un gros poisson peut avaler un être humain. Et on n'a pas besoin d'aller chercher les archives de 1883 pour le voir, le 14 juin 2021 sur francebleu.fr. Ça aurait pu être le cas de Jonas. Il se fait avaler, mauvais goût, blablabla, il crache le bonhomme. Sauf que, on apprend quelque chose d'intéressant sur Jonas. Il va mettre 3 jours. 3 jours et 3 nuits pour capituler devant son Dieu. Il va rester 3 jours et 3 nuits dans la gueule du poisson, dans le noir, dans les algues, dans le gluant, dans le puant, peut-être même dans l'acide gastrique qui venait l'attaquer, avant de dire « Oui Seigneur, pardon, tu as raison, c'est toi le maître. » 3 jours pour capituler, ça nous en dit beaucoup sur la tête du gaillard. Hein. Et là, ben Dieu parle au poisson, il va le cracher sur une plage, alors pas tout à fait là, hein, quelque part, et Jonas va mettre encore quelques jours, voire semaines, pour aller jusqu'à Ninive. Et c'est là que moi j'aimerais prendre le texte. Alors ça fait, vous allez me dire, une grande introduction, 10 minutes, mais ça nous donne bien le contexte de la du personnage. Et j'aimerais dans un premier temps m'arrêter sur les réactions de Jonas. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois, seconde chance. Jonas, entre guillemets, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. Jonas se leva et alla à Ninive, conformément à la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une immense ville. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il proclamait « Dans 40 jours, Ninive sera détruite. » Hop là, c'est pas grave. Jonas semble avoir compris. Il se lève et va à Ninive pour annoncer la condamnation de Dieu. Enfin, il obéit. Oui, on voit qu'il ne change pas vraiment d'idée. Il y va et il fait le strict minimum syndical. 3 jours pour faire tout le tour, lui fait une journée de marche. Après quoi, il part et il va se mettre dehors. Il attend encore, il espère encore que j'ai obéi à Dieu. Mais pas trop, il ne peut rien me reprocher, mais du coup, si je n'annonce pas vraiment à tout le monde, ben peut-être qu'ils seront quand même détruits. Il y va un peu à reculons, malgré tout. Et ça me fait penser quand je faisais des formations BAFA, des jeunes qui faisaient leur animation, et puis quand on faisait le bilan après de leur animation, on voyait qu'ils n'avaient pas été forcément en accord pour mettre leur animation, leur activité en place. Et quand on voit les points à garder, à améliorer, du coup, on sent certains qui disaient « Ah ben voilà, je vous l'avais bien dit, hein ? Il fallait pas faire ça !» Ouais, Jonas y va, mais à reculons. Et parfois, je crois qu'on a un peu cette attitude-là. « Seigneur, je veux bien t'obéir, mais... Allez, c'est vraiment... Mais j'ai pas trop envie, quoi. » Ça me fait penser à nos enfants, pour ceux qui en ont, qu'on les oblige à faire quelque chose, à ranger leur chambre ou à venir au repas alors qu'ils sont devant la télé ou un jeu vidéo. On obtient à peu près ça, et c'est là où j'ai dit mince, parce que cette image devait arriver maintenant. Hein. On obtient à peu près cette bouille-là. Hein. Ils sont furax, ils ne sont pas contents. Ça là va être l'attitude de Jonas. D'autant plus que, effectivement, Dieu ne va pas détruire Ninive. Chapitre 4, verset 1, nous dit « Jonas le prit très mal et fut irrité. Il pria l'Éternel en disant « N'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. L'Éternel lui répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Jonas, il est en pétard. Il est irrité. Même pire, il est irrité contre Dieu. Est-ce que cela nous arrive de nous irriter contre Dieu ? Bon, peut-être pas autant que Jonas. Il va loin. Il est tellement, excusez-moi l'expression, dégoûté de ce que cela implique qu'il demande à Dieu de lui prendre la vie. Il ne veut pas voir ça. Il préfère mourir plutôt que de voir la compassion de Dieu envers ce peuple de mécréants. Un peu comme Jonas ou à contre-pied, je vais dire, est-ce qu'il y a des personnes que vous avez du mal à supporter ? Est-ce qu'il y a des personnes dont vous dites... Ils ont un trop sale caractère. Ils ne vont pas changer. Ah, ça ne sert à rien. Hein. Ce n'est même pas la peine d'essayer. Moi, j'en ai. Et au travers des situations, Dieu m'a montré une chose. Ce n'est pas l'autre qui doit changer. C'est moi. C'est mon regard sur l'autre qui doit changer. Et quand Dieu me fait la grâce de changer mon regard... C'est là que les situations changent. C'est là que peut-être l'autre va voir autre chose. Mais en tout cas, moi, je vais voir l'autre autrement. Jonas savait que son Dieu pouvait pardonner, même des païens mécréants. Mais il voulait quand même en faire à sa tête. Jonas, un serviteur aimé. C'est le dernier aspect que qu'on va voir sur Jonas avant de passer au deuxième point. L'Éternel, Dieu, fit pousser une plante qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer de son mal. Extraordinaire, hein ? Dieu se soucie même de l'intégrité physique de Jonas. Jonas éprouva une grande joie à cause de cette plante. Mais le lendemain à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui la rongea et la plante sécha. Merci Seigneur. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante ? J'ai sauté un peu de texte, hein, mais on voit que Jonas il s'énerve à nouveau. Il répondit, bien sûr que je fais bien de m'irriter, jusqu'à la mort. L'Éternel dit, tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine. Et moi je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouve plus de 120 000 êtres humains incapables de distinguer leur droite de leur gauche et un grand nombre d'animaux. Fin du livre de Jonas. Ce passage serait presque burlesque si l'enjeu n'était pas aussi grand de centaines de vies, de milliers de vies de personnes. Il suffit d'une plante pour que Jonas retrouve la joie, même une très grande joie, nous dit le texte. Puis de la perdre pour à nouveau s'irriter jusqu'à vouloir mourir. Ce serait intéressant d'avoir le profil psychologique de Jonas, hein, avec ses hauts et ses bas, comme ça, et ses sautes d'humeur, et ses extrémités, ses extravagances. J'ai un peu de mal à me comparer à Jonas, à m'identifier à lui. Mais quelle leçon, Seigneur, tu veux nous communiquer au travers de ce bonhomme ? Si on part un peu sur le principe du serviteur sacrificiel, je me retrouve dans Jonas, dans la mesure où des fois, je veux m'engager à fond pour le Seigneur. Et Jonas, il avait vraiment un cœur pour sa patrie, un cœur pour son Dieu. Je veux m'engager à fond pour le Seigneur, dans l'Église, dans son œuvre. Et quand je rencontre de l'opposition interne ou du mécontentement, ben, j'ai envie de tout laisser tomber. Un peu comme Jonas, et de dire, tout envoyer balader, et dire, si c'est comme ça, débrouillez-vous. Vous est-il arrivé de vivre cela, de vouloir faire, de bien faire, de vouloir le faire à fond et de recevoir des critiques et du coup de vouloir tout lâcher? Jonas, ce héros sacrificiel, qui est prêt à se sacrifier pour son peuple, à quitter sa patrie, à tout quitter, quitter son Dieu pour partir au loin. Ce gars prêt à se sacrifier pour des marins, pour qu'ils ne meurent pas. Ce gars qui se soucie même d'une plante, mais qui n'arrive pas à accepter le plan d'amour de Dieu. Pour autant, Dieu ne le laisse pas. Il va travailler avec son serviteur pour lui montrer la pertinence de ses actions, alors que Dieu n'est pas tenu de le faire. Dieu travaille avec nous. Il a une telle patience avec moi. Et là, j'aimerais aborder la deuxième partie du message, ce que nous voyons de Dieu. Le Dieu maître de l'histoire. Il annonce par son prophète Joël que le royaume du Nord sera déporté, parce qu'il sait que le royaume du Nord sera déporté. Il tient l'histoire dans sa main. Il envoie une tempête, puis tout aussi rapidement, il va la calmer. Il est le maître des éléments. Il ordonne à un gros poisson de venir, et le gros poisson vient, de gober Jonas, puis de recracher Jonas, et le poisson obéit. Il demande à une plante de pousser, puis à un ver d'aller tuer la plante. Toute la création lui est soumise. Dieu est maître de l'histoire, de la nature, de toute la création. Ce qu'il ordonne, la chose se fait. Mais il y a une chose qui peut le faire changer. C'est le repentir des êtres humains. Car Dieu aime les humains avant tout. Il a eu pitié de Samarie alors que le royaume du Nord s'était détourné de lui et il les a délivrés des Édomites. Il a pitié d'un peuple païen, idolâtre, qui faisait des choses horribles parce qu'ils se sont réellement repentis, même si Ninive sera condamnée plus tard. Mais là, les gens se repentent et Dieu change son jugement. Malgré les machinations de son prophète, Dieu accomplit ce qu'il a décidé et il va utiliser son prophète pour ça, parce qu'il est le maître de l'histoire. Il est aussi le Dieu de pardon. Dieu est un Dieu de pardon et d'amour. Et souvent dans l'Ancien Testament, on voit Dieu comme un Dieu dur, cruel, qui juge, qui punit. Mais quand on regarde bien, on voit que Dieu annonce toujours le jugement en vue de la repentance. Il annonce un jugement avec un délai, en espérant que les personnes ou la nation va changer. Il le fait pour Israël, il le fait pour Ninive. Un délai, c'est de la confiance en un changement pour ceux qui ne le méritent pas. Quand personne ne croit en vous, quand personne ne vous fait confiance, si quelqu'un prend ce risque, cela peut changer tout pour vous, pour nous, pour Jonas, pour les Ninivites. Par la repentance, la condamnation annoncée est remplacée par le pardon, la miséricorde, la grâce. Je savais que tu es un Dieu qui pardonne, un Dieu de grâce. Jonas cite Exode 34, verset 6. L'Éternel passa devant Moïse et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui en proclamant « L'Éternel, l'Éternel Dieu, compatissant, qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. » Oui, le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu de pardon, d'amour et de compassion. Est un Dieu qui fait grâce jusqu'à la millième génération. Vous prenez 20 ans pour une génération, 25 ans, 25 000 ans. Vous vous rendez compte? On n'y est pas encore au bout. Hein. Après, ça dépend où on met Adam et Ève. Mais un Dieu de pardon, de grâce, jusqu'à la 1000e génération. Jonas connaît son Dieu. La compassion, la bienveillance, la patience, la retenue dans le jugement, la loyauté font partie de la nature divine. Dieu est un Dieu compatissant. Et il appelle l'homme à se tourner vers lui. Dieu est le Dieu de patience. Alors, je n'ai pas assisté à toute la louange, mais juste à la dernière, au dernier chant, et on voit que Dieu est un Dieu de patience. Et c'est la troisième chose qu'on apprend sur Dieu dans ce texte, et pas la moindre. Dans les illustrations de Jonas, que j'ai essayé de revoir de l'école du dimanche, souvent ça s'arrête soit quand il est recraché sur la plage, avec le gros poisson, soit avec la repentance de Ninive. Rarement au vert. Je ne sais pas, dans les leçons d'école du dimanche, le vers n'a pas une grande importance. Pourtant, jusqu'à là, on voit la patience de Dieu envers son prophète pour lui enseigner une leçon extraordinaire, que son amour est pour tous les humains, et plus encore pour nous. Parce que Christ, quand il cite l'exemple de Jonas, on remet tout ça dans son contexte. 3 jours et 3 nuits. Pourquoi ? Pour sa résurrection et pour le salut de tous les humains. Pas simplement de 120 000 êtres vivants, pour tous les humains. Patience de Dieu qui va suivre son prophète dans tous ses états, on l'a vu, hein, qui va veiller sur lui. Le poisson pour éviter qu'il se noie, une plante pour le délivrer de son mal. Dieu se soucie de son prophète. Patience aussi de Dieu, face à cette tête dure, de lui donner des explications pour qu'il réalise son obstination. Patience de Dieu qui veut l'utiliser, malgré ses fausses conceptions, qui ne le laisse pas tomber dans la faillite. Patience de Dieu qui va jusqu'à lui expliquer son plan d'amour. Dieu fit pousser une plante qui se leva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer de son mal. Toi, suis-moi. Suivre Christ, quelles que soient les circonstances, ce n'est pas toujours facile. Surtout parfois quand je suis aussi têtu que Jonas, et peut-être certains vont se reconnaître aussi là-dedans. Surtout quand je suis certain de faire moi, Jean-Jacques, ce que je pense être juste. Parce que Dieu, il n'y comprend rien. Mais Dieu, dans son amour, prend soin de nous. Il nous conduit. Il nous réconforte. Il se révèle à nous. Même parfois, s'il doit taper un peu fort sur nos têtes. Le Dieu de l'histoire, tout est entre ses mains. Tout lui obéit. Apprendre à lui faire confiance, même quand on ne comprend pas. Qu'on a l'impression que ça ne va pas le faire. Malheureusement, pour moi, en tout cas, c'est quelque chose que je n'arrive pas à apprendre en une seule fois. Et il faut qu'à chaque fois, Dieu me rappelle cette leçon, de lui faire confiance et de la mettre en pratique. Toi, suis-moi. Le Dieu du pardon qui nous encourage et qui nous relève et qui nous encourage à repartir. Un père aimant qui attend sur le pas de la porte que son fils revienne vers lui. Un Dieu patient qui chemine avec nous et qui nous montre son plan d'amour. Que nous puissions nous laisser transformer par ce Dieu afin de pouvoir le suivre là où il nous envoie, même si ce n'est pas aussi loin que parfois on peut le croire. Seigneur, merci pour cette histoire de Jonas qui nous rappelle ô combien tu es un Dieu grand et extraordinaire, un Dieu qui contrôle toutes choses, mais aussi un Dieu d'amour, de pardon et de patience. Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu te soucies de lui, dit David dans son psaume. Ouais, aussi, pensée qui m'a traversé l'esprit ce matin. Qu'est-ce que je suis, Seigneur, pour que tu te soucies autant de moi? Pourtant, tu es venu sur cette terre et tu es mort pour me sauver, pour que je puisse être appelé ton enfant. Oui, Seigneur, parce que tu te soucies de moi et de chacun d'entre nous. Tu nous as appelés, tu nous as accueillis dans ta famille, Seigneur, et tu ne nous laisses pas tomber. Seigneur, parfois, c'est vrai, je veux en faire à ma tête, je crois savoir ce qu'il faut. Parfois, je rouspète, je m'irrite. Parfois, je tiens des griefs contre un tel ou un tel. Et Seigneur, tu veux m'apprendre à voir avec tes yeux. Tu veux m'apprendre à aimer et à te servir, Seigneur. Seigneur, que tu puisses nous encourager par cette histoire de Jonas, même si elle n'a pas de fin, on ne sait pas ce que Jonas va faire, parce que ce n'est pas grave. Seigneur, la suite, tu veux l'écrire avec nous. Toi, suis-moi. Seigneur, aide-moi à te suivre, Seigneur, et aide-moi à te faire confiance, parce que toi, tu prends soin de moi. Tu prends soin de chacun d'entre nous. Et tu veux nous aider à marcher sur ce chemin, à grandir et à apprendre à te connaître de plus en plus. Que nous puissions nous abandonner totalement entre tes mains, Seigneur. Parce que même si des fois tu tapes fort, tu veux notre bien. Tu nous aimes, tu m'aimes. Amen.